Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue si vous nous rejoignez sur Bram FM, il est 13h passé de 2 minutes, nous sommes le vendredi 13 janvier 2023 et mes invités aujourd'hui, à mes côtés dans le studio, j'ai le plaisir d'accueillir Pauline Haussard, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes fondatrice du collectif Girls in Rose et bonjour à vous Virginie Goudonnet.
Bonjour.
Et vous êtes membre de ce collectif et vous êtes avec moi en première partie toutes les deux pour en parler. À 13h30 vous entendrez le journal régional. Et en deuxième partie d'émission, Alexandra Michel de Corrèze Tourisme sera avec nous dans le studio pour nous aider à tenir toutes nos bonnes résolutions pour cette année 2023. Elle nous donnera toutes les clés pour rouler sur toute la Corrèze à vélo. Et comment parvenir à réduire les factures d'énergie des Corréziens? C'est la question que se pose le conseil départemental. Et pour y répondre, la collectivité a voté la mise en place d'un plan baptisé Corrèze Bouclier Énergétique. Vous en saurez plus à 13h50, c'est le sujet de la chronique en Limousin. Et à 13h55, la météo sera au rendez-vous, c'est promis. Voici le programme de l'heure à venir. Vous êtes ici, sur Bram FM, jusqu'à 14h et nous sommes en direct. Et avant de retrouver nos invités du jour et de tout savoir sur le collectif Girls in Rose, parlons de sport avec Hugo. Hugo qui nous propose une chronique une fois par mois. Nous l'écoutons et on se retrouve juste après.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler du club de rugby local et national, le CA Brive Corrèze Limousin. Le CAB, dont les couleurs officielles sont le noir et blanc. Ce club corrézien a pour palmarès la Coupe d'Europe gagnée le 25 janvier 1997 contre les Leicester Tigers sur le score de 28-9 à Cardiff, ainsi que le Challenge Yves du Manoir gagné en 1996. Le CAB est connu pour son ambiance à domicile dans son stade Amédée Domenech, plus connu sous le nom du Stadium. J'y reviendrai un peu plus tard. En effet, en 2019, Brive a été élu meilleur public de France et l'est toujours. Car en 2020 et 2021, à cause du Covid, ce trophée n'a pas été attribué. Maintenant, je vais vous faire un point sur les résultats de cette saison. Cette année, Brive a pour l'instant joué 15 matchs sur les 26 prévus de la saison 2022-2023. Nous sommes à un peu plus de la mi-saison. Pour ce qui en est des rencontres contre les grosses équipes, Brive a reçu en début de saison le champion de France en titre, Montpellier. Malheureusement, le CAB a perdu sur un score très serré 26-31. Les locaux auraient pu gagner, ils ont attaqué, ont été juste devant la ligne d'en but montpelliéraine les 5 dernières minutes, mais n'ont pas réussi à aplatir le ballon derrière la ligne car un joueur montpelliérain a récupéré le ballon au bréviste. A noter que le match a duré jusqu'à la 86e minute. Ensuite, le CAB a joué le Stade Toulousain qui s'est terminé sur une lourde défaite à domicile 7-45. Puis ils ont reçu La Rochelle, le champion d'Europe en titre. Ce fut un match très serré qui s'est conclu sur une courte défaite 17-19. Mais il faut savoir que Brive a eu la pénalité de la gagne à la dernière minute, mais l'a ratée, malheureusement. Pour ce qui en est des équipes qui jouent aussi le maintien, il y a Perpignan, où nos Brivistes sont allés gagner 17-6 avec le bonus offensif. Il y a aussi Pau, où Brive a perdu 22-6. Pour terminer, Bayonne, qui fait un très bon début de saison, mais où nos Brivistes se sont imposés à domicile 25-22. Juste avant les fêtes, Brive était dernier à 5 points de Perpignan barragiste et 12 points de Pau, premier non relégable. La fin de saison s'annonçait compliquée. Afin de se relancer, la direction annonçait l'arrivée d'un nouveau manager général, Patrice Colazzo. Pour Noël, Brive s'offrait clairement dans le derby du Massif Central. En effet, le CAB a gagné 20-16 dans un match extrêmement serré, car nous perdions 13-16 à la sirène. Mais poussé par son public, les cabistes délivraient tout un stade avec un essai à la 88e minute. La fête s'est conclue par un très beau feu d'artifice. Ensuite, Brive se déplaçait à Lyon, et là où depuis 10 ans nous revenions avec une défaite, le CAB a réussi à gagner 30-27. Pour terminer, samedi dernier, Brive recevait Toulon, après un match bien maîtrisé, nous avons gagné 26-17. Grâce à ces 3 performances, Brive a dépassé Perpignan de 7 points et est revenu à 2 points de Pau. Est-ce que ces gros résultats sont grâce au nouvel entraîneur Patrice Colazzo? Et surtout, est-ce qu'ils vont continuer dans cette bonne dynamique? En tant que Corrézien, j'espère voir mon club en top 14 l'année prochaine. Pour terminer, je vais vous parler du stade Amédée Domenech. Ce stade est composé de 3 tribunes, avec une capacité de 13 979 places, dont environ 11 000 assises et 3 000 en pesage. La plus grande est la tribune Élie Pébert, c'est là où il y a tous les groupes de supporters. Un projet d'agrandissement a été acté il n'y a pas très longtemps sur une 4e tribune. Elle fera environ 2300 places de plus et sera composée de plusieurs panneaux photovoltaïques, d'une salle conviviale et de nombreuses loges. Ce projet commencera et sera terminé pour les débuts de la saison 2024-2025.
Et un grand merci Hugo pour cette chronique sportive. Nous te retrouvons le mois prochain.
Vous êtes ici avec Aver Marie.
Et rebonjour Pauline Haussard.
Rebonjour.
Et rebonjour à vous Virginie Goudonnet. Alors, nous allons donc parler aujourd'hui du collectif Girls in Rose. Pauline Haussard, vous êtes fondatrice de ce collectif spontané, dit-on, Girls in Rose. Racontez-nous la genèse de ce projet.
La genèse est assez rigolote. En fait, c'est une idée spontanée qui a germé dans ma petite tête. C'était le 4, je crois.
Un mercredi matin.
C'est ça. Il devait être à peu près 7h30 pour être précise, où Octobre Rose démarrait. Et où, comme tous les ans et comme tout le monde, je mettais mon petit nœud rose sur ma photo Facebook. Et je me suis dit, bon, c'est bien beau, c'est de la com, c'est bien, on en parle, mais en fait, je fais rien de concret, donc ça me plaît pas. Et donc, à ma manière habituelle, il y a eu une action derrière et j'ai fait partir un messenger à une trentaine ou quarantaine de copines à moi. Et c'est parti comme ça. Je leur ai fait passer un messenger en disant, bon, est-ce qu'on ferait pas quelque chose de concret pour la Ligue, pour vraiment avoir une action quoi, dans le réel. Et en fait, elles ont été 15 à dire, ouais, go, grave, tout de suite. Et ça a été très vite parce qu'en moins d'une semaine, parmi ces femmes, on avait la chance d'avoir Maëva Bégoury, qui est la photographe du projet, portraitiste de France. Donc, c'était plutôt une très, très grande chance pour nous. Et il lui restait une date, le mercredi suivant, pour faire le shooting. Et c'est parti comme ça.
Alors, vous parlez de shooting, mais les auditeurs et auditrices ne savent peut-être pas de quoi il s'agit, parce que vous êtes parti donc de l'idée de mener une action, et vous avez choisi de faire un calendrier. Alors, comment vous est venue cette idée de calendrier déjà ?
En fait, on a toutes fait des propositions, et la seule qui a emballé le collectif, c'était le calendrier. De suite est né un esprit complètement rock'n'roll et funky de Nana avec un engouement extraordinaire. Et effectivement, le calendrier nous a toutes plu. Et effectivement, le fait d'avoir Maëva a vraiment, vraiment motivé notre projet.
Alors, vous, Virginie Goudonnet, vous êtes membre de ce collectif. Vous faites partie des personnes qui ont répondu tout de suite à la demande.
Oui.
Pourquoi ?
Tout simplement, dans la vie, je suis esthéticienne et tous les ans, dans mon institut, je mène des actions. Et j'avoue, très honnêtement, cette année, je n'avais pas d'idée. Et cette idée-là est tombée, c'était un cadeau du ciel. C'était l'idée de l'année, c'était le combat de l'année.
Alors, tout à l'heure, Pauline Haussard, vous avez dit, comme tout le monde, je mets un euro sur ma photo. Je ne pense pas que tout le monde fasse ça. Je voulais savoir, à titre personnel, d'où venait déjà cette sensibilité que vous aviez à cette question du mois pour la lutte contre le cancer.
En fait, alors c'est ce qu'on dit effectivement à chaque fois, c'est qu'on est tous concernés. Dans mon histoire personnelle, le cancer fait malheureusement partie de ma vie, pas à moi, heureusement j'ai cette chance-là, mais beaucoup de personnes dans ma famille ont été touchées, mes deux grand-mères en sont décédées. Mon grand-père, le seul grand-père qui me restait, s'est suicidé 6 mois après la mort de sa femme et il n'a pas supporté. Donc le cancer tue des malades, mais aussi d'autres personnes.
Son entourage.
Et en fait, je n'ai pas non plus envie d'en avoir peur. Donc l'idée, c'était de prendre un peu le contre-pied et nous, notre action véritablement, d'être sur une approche, on va dire, un peu plus légère et de se battre pour la prévention, pour éviter d'en arriver à des histoires aussi dramatiques. Ce qui nous permet de garder aussi notre légèreté de ton et d'approche, parce que nous, notre message, c'est de dire faites-vous dépister, faites ce qu'il faut avant qu'on en arrive là. Oui, touchés comme tous par cette maladie-là, et donc motivés pour essayer de faire quelque chose.
Et vous, Virginie Goudonnet, qu'est-ce qui vous touche dans cette sensibilisation contre le cancer ?
Alors, comme Pauline, bien sûr, j'ai été impactée dans ma vie personnelle. Alors, pas moi dans ma chair, mais dans mon entourage. Et le message que je pense on veut toutes faire passer, c'est de ne pas attendre d'être touchée pour agir. Aujourd'hui, on a des centaines et des milliers milliers de façons d'agir. Et faire ce calendrier, pour nous, c'était une façon d'agir de manière un peu plus légère, effectivement, un peu plus fun, et de dire aux gens, il n'y a pas besoin d'être retraité ou d'être touché pour mener une action pour la prévention et pour la lutte contre le cancer.
Donc vous avez fait ce calendrier de photos. Comment est-ce que la Ligue contre le cancer a réagi à cet événement?
Alors c'était
assez... Jean-Louis, tu nous entends, j'espère.
Voilà, Jean-Louis, j'espère que tu es avec nous. Donc qui est le président de la Ligue, donc qui ne nous connaissait pas très clairement. On a lancé ce projet de manière très spontanée. Donc on a lancé le projet, il n'était pas encore au courant qu'on lançait un projet pour récolter des fonds pour la Ligue. Voilà, c'est un concept. Et lorsque j'ai eu du coup Maxence, qui est leur chargé de communication, on a parlé du projet, donc il a compris l'essence du projet. Il en a parlé à Jean-Louis, donc le président, Jean-Louis Jaillat, qui tout de suite a trouvé ça super. Il a dit, bon, mais ok, pas de problème, on met un mot dans le calendrier. Sauf qu'après, il a réfléchi et il s'est dit, j'ai pas vu le calendrier. Donc, si c'est un calendrier un peu grivois, ou voilà, est-ce que vraiment j'ai envie que l'image de la Ligue soit associée à ça? Ce à quoi on a très vite répondu, j'ai envoyé la maquette et il a été tout de suite rassuré. Et du coup, il est à 200%, c'est même pas assez.
Ouais.
500% avec nous.
Alors, clairement, aujourd'hui, les Girls in Rose, c'est 16 nanas et on a un mec en rose, clairement, c'est Jean-Louis.
Ouais.
Alors, ce calendrier, quelles ont été les répercussions? Comment est-ce que ça s'est passé une fois que ce calendrier est sorti?
Alors, on était quand même dans le dur parce que nous, notre objectif, c'était véritablement de le vendre. Donc, on n'a pas réagi aux remarques positives majoritairement, hein, négatives très très peu. Très peu de remarques négatives, c'est anecdotique.
Allez,
quoi.
Peut-être deux,
ouais.
Trois.
Et mais en fait, on est vraiment parti dans l'optique de vente. Donc, on était en mode entrepreneuse parce qu'on est, pour nous deux, en tout cas, on est entrepreneuses toutes les deux. Donc, on est parti dans cette démarche-là. C'est OK, maintenant, on a les calendriers, donc il faut les vendre. Donc, point de vente, donc opération de vente, etc.
Combien d'exemplaires vous aviez fait?
1000. Alors ça, c'est important de le dire aussi, c'est que cette opération a été viable parce que notre imprimeur a joué le jeu. Donc c'est l'imprimerie Mogin à Tulle qui a imprimé ces calendriers. C'est des calendriers en grand format, ils sont en format A3. Et en fait, ils nous ont fait une opération à prix coûtant. Donc, ce qui a rendu l'opération viable pour avoir du chiffre d'affaires, du bénéfice, pas du chiffre d'affaires, mais du bénéfice pour la Ligue. Et donc, 1000 exemplaires sans aucun plan de commercialisation, parce qu'on a eu les calendriers 3 semaines après avoir lancé le projet. Donc, autant vous dire qu'on n'avait absolument rien calculé.
Et on était quasiment fin octobre. Octobre rose était sur la fin. Donc,
oui.
Voilà. On s'est lancé.
On ne pouvait pas bénéficier effectivement de l'engouement d'Octobre rose. Parce que je me suis réveillée un mois trop tard. Mais voilà, il fallait vraiment y aller. Et en fait, ça s'est fait très facilement parce qu'on a, je crois, pas loin d'une trentaine de points de vente qui se sont proposés à nous sur une grosse partie de la Corrèze. Alors, beaucoup le bassin briviste parce qu'on est majoritairement de là-bas, mais sur Tulle également, sur Ussel.
Sur Aigleton.
Sur Aigleton aussi. Voilà, ça a démarré comme ça. Et puis ensuite, on a fait des opérations de vente sur un match du CAB.
À la fin du livre.
Le même week-end. C'était un gros week-end.
Oui.
Dans la galerie de Géant aussi, sur 2 journées. Et voilà, on a essayé de mobiliser un maximum.
Ouais, je voulais également préciser qu'on a mené une action auprès des commerçants de Brive, du centre-ville. Et on y est allé un petit peu en marche arrière parce qu'on avait peur. Et sincèrement, je les remercie. On a été accueillis à chaque fois comme des reines. Chaque commerce dont on a poussé la porte, on a reçu un accueil extraordinaire. On est toujours reparti avec au moins la vente d'un calendrier, avec des dons. Franchement, c'était une très 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 belle expérience et je tiens vraiment à les remercier parce qu'ils nous ont tous très très bien accueillis.
Quelles étaient les répercussions dans vos vies personnelles? Est-ce que de devenir actrice de ce mouvement de sensibilisation, qu'est-ce que ça a provoqué? Qu'est-ce que ça a changé?
Alors, pour ma part, en termes d'image, pas grand-chose, parce que j'ai un détachement à mon image qui fait que... pour parler très clairement, je m'en fous d'avoir cette photo de moi. C'est pas, j'ai un détachement vraiment par rapport à ça, donc ça n'a pas changé mon quotidien. Moi, ça a changé du temps. Beaucoup, 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 beaucoup de temps passé sur ce projet-là pour le faire avancer. Mais c'est absolument pas un regret. C'est du temps que j'ai eu plaisir. On a fait des rencontres de dingue. On a quand même une photo avec François Hollande. Quand même,
c'est vrai. C'est
chose
vrai.
Qui nous serait, je pense, jamais arrivée. Mais voilà, des moments assez incroyables. Ça a changé, si, ça a changé aussi que ces 15 femmes, ces 15 nanas, c'est pas réducteur pour moi, nana. Donc ces 15 nanas, j'avais la chance de les connaître et elles ne se connaissaient pas entre elles. Et aujourd'hui, on a un pur groupe de copines,
ouais,
quoi.
Ouais, ouais, carrément.
Ça a changé, ouais.
Et en fait, c'est né dès le début. C'est-à-dire que sur la discussion, déjà, il y a des affinités, il y a des liens qui se sont créés. Et quand on s'est rencontrés le jour de la prise de vue, ça s'est fait naturellement, comme si on se connaissait depuis toujours en fait. Il y a eu de l'entraide, il y a eu de l'écoute, il y a eu de l'encouragement, parce que c'est pas facile de se mettre entre guillemets à nu devant une photographe et des nanas qu'on connaît pas. C'est pas simple. Et ouais, il y a vraiment quelque chose qui s'est créé tout seul et qui franchement est super chouette. Mmh.
Et vous parliez tout à l'heure du petit nœud rose sur votre photo. Là, vous devenez actrice donc dans un projet beaucoup plus grand. Qu'est-ce que ça a provoqué en vous ? Parce que vous...
L'envie d'aller encore plus loin.
Ouais. le problème, c'est que je pense que déjà, les personnes qui ont relevé des défis sont des personnes qui aiment relever des défis. Et on a encore envie d'en relever plein d'autres. Et d'aller encore plus haut, encore plus loin. Et de faire vraiment parler de cette action.
Alors dans quelques instants, on va parler d'un deuxième projet que vous avez mis en place et qui va se dérouler très prochainement, un gala. Pour l'instant, on va faire une courte pause en musique et on se retrouve juste après pour continuer de parler de votre collectif, toutes les deux, le collectif Girls in Rose. À tout de suite.
Stealing time in shadows for the secret of
Someone avec le titre Could You Go For Me.
Vous êtes ici avec Aver Marie.
Oui, vous êtes ici sur Bram FM et nous poursuivons notre émission en direct. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h et en cette première partie d'émission, j'ai le plaisir d'accueillir dans le studio à mes côtés Pauline Ossa, fondatrice du collectif Girls in Rose, et à vos côtés Virginie Goudonnet, membre du collectif. Avant de cette pause musicale, nous parlions vraiment de la genèse du projet et comment ça s'est mis en place. Mais voilà, un deuxième projet, donc on a parlé du calendrier que vous avez fait, que vous avez créé de toutes pièces que vous avez vendues, commercialisées, dont les profits ont été pour la Ligue contre le cancer. Et là, vous avez un deuxième projet, un gala, qui sera donc le 21 janvier prochain. Alors, racontez-nous ce gala, comment ça va se passer cette soirée, comment ça s'est mis en place ?
Un petit peu comme le calendrier, très franchement à l'arrache pour cette année. Tout a commencé à Castelnouvel. On a été conviés par la Ligue lors de la clôture d'Octobre Rose à Castelnouvel. Et donc Jean-Louis Jaillat, le président de la Ligue, a présenté notre projet avec des calendriers tout chauds sortis des presses de l'imprimeur. Et donc on a voulu clôturer cette première édition au même endroit, mais de manière un petit peu plus spectaculaire, on va dire. On a vraiment eu envie de faire un événement qui soit marquant et qui s'ancre dans les opérations que l'on peut faire en local, que ça devienne un rendez-vous. C'est vraiment notre ambition est là. Donc ce gala, c'est une soirée, donc soirée repas. La réception est préparée par Castelnouvel.
Est-ce que vous pouvez rappeler peut-être pour les auditeurs et auditrices qui ne sauraient pas ce qu'est Castelnouvel ?
Bien sûr. Donc Castelnouvel, c'est un hôtel-restaurant qui se trouve à Varès. Donc c'est un château, c'est un cadre magnifique.
Historique.
Oui, vraiment. C'est un cadre superbe, somptueux. Et on a la chance d'avoir cet écrin-là. Donc Julien Der, le directeur, lorsque je l'ai appelé, il faut savoir qu'il faut avoir un petit peu peur lorsque j'appelle quelqu'un en disant « j'ai une idée ».
Donc je confirme.
J'ai attaqué comme ça, j'ai eu une idée. Et je pense qu'on était mi-décembre et Julien a dit go tout de suite. Pourtant, pour lui, c'est un travail colossal parce qu'on attend... Alors, la capacité maximale est de 230 convives. On est déjà aujourd'hui à 130 personnes. Donc, c'est déjà très, très bien. Donc, c'est un travail colossal. Et donc, il y a cette réception-là. Mais ça n'est pas tout. Il y a aussi un spectacle qui va être proposé, un show vocal hallucinant, et je pèse mes mots, de l'Institut Vocal et Artistique La Voix des Anges, qui se trouve à Malemort. Donc ils vont être 12 chanteurs de mémoire à reprendre des grands tubes de façon assez magistrale, un petit côté broadwaysque comme j'aime bien dire. Et il y aura ensuite, pour terminer la soirée, parce qu'on ne va pas se quitter comme ça, DJ Giorgio, que je connais aussi, qui va nous animer la soirée. On va enflammer le dance floor parce que c'est un gala chic, certes, mais on ne va quand même pas renier nos...
Mais on va garder notre identité, tout
Exactement.
Simplement, et on va la revendiquer.
C'est ça, notre petit côté rock'n'roll. Donc ça sera une soirée chic et rock'n'roll et surtout, bien évidemment, dont les fonds seront reversés à la Ligue. Une partie du repas et ensuite tout un tas de dons qui sont possibles de faire pendant la soirée seront intégralement reversés à la Ligue contre le cancer.
Alors, on le disait hors antenne pendant la pause musicale, c'est un travail colossal que vous faites oui. Toutes les deux et peut-être même les 15 que vous êtes. Vous êtes peu pour le moment, vous êtes un collectif. Là, pour l'instant, vous êtes donc sur ces deux événements qui vont devenir des rendez-vous annuels, le calendrier et le gala. Est-ce qu'il y a d'autres projets dans les tuyaux ?
Non.
Alors elle vous dit ça. Ah non, non, elle vous dit ça aujourd'hui. Mais Pauline, demain matin, elle aura une autre idée. Elle va dire j'ai une idée.
C'est pas faux. Non, on va tenter déjà de pérenniser ces deux actions qui demandent un travail dingue. Enfin, comme je vous disais hors antenne, depuis début octobre jusqu'à aujourd'hui, moi, ça représente rien que pour ma part à peu près un mois de travail non-stop. Donc,
sachant que vous avez toutes les deux une activité à côté.
Exactement. C'est ça. Exactement. Donc on va déjà. Alors. Je vous dis non, mais ce n'est pas un non complètement non, parce que dans l'idée, on a toujours cette idée de recommercialiser un produit qui soit culturel. C'est une approche qui n'est pas très présente sur le territoire lors d'Octobre Rose ou Movember, parce qu'on ne va peut-être pas s'arrêter à Octobre Rose.
Ah non, leur dit pas tout, leur dit pas tout.
J'ai pas dit plus, j'ai dit peut-être.
Peut-être.
Et donc, on aura un produit culturel, photographique, très certainement. Sous quelle forme, on ne le sait pas encore. On se laisse la liberté de, voilà, de choisir. Et on aura aussi cette proposition d'événementiel. Mais qui sera certainement un peu différent de ce qu'on va faire cette année. On n'a pas encore fait l'événement de cette année, qu'on a déjà des idées pour l'an prochain. Mais voilà, on va pour l'instant, au moins pour 2024, rester sur ce...
2023 ? On commence par 2023, on ira après
2024. On va l'attaquer en 2023, oui. On finit 2022 en 2023, oui, effectivement. Pour 2023-2024, on va rester sur ce format-là.
Alors, pour celles et ceux qui souhaiteraient donc venir à ce gala ou avoir des renseignements, est-ce que vous pouvez nous redonner toutes les bonnes infos pour vous retrouver ?
Bien sûr. Alors, c'est tout simple. Vous pouvez nous retrouver sur Facebook ou Instagram Girls in Rose. Vous remplacez les S par des Z. Vous pouvez aller aussi sur le site girlsinrose.fr et vous aurez le lien très, très rapidement accessible pour faire vos réservations. Pensez bien à réserver, par contre, c'est uniquement sur réservation. C'est ouvert à tous. Bien évidemment, mais sur réservation.
Merci infiniment d'avoir été mes invités aujourd'hui pour cette première
Merci
partie d'émission. Merci à vous. Pauline Ossard, je rappelle que vous êtes fondatrice du collectif Girls in Rose. Et un grand merci à vous, Virginie Goudonnet, membre du collectif. Merci à vous toutes les deux d'avoir été là dans le studio avec nous. Et puis on espère suivre les prochains projets de Girls in Rose qui risquent d'arriver, donc si j'ai bien compris.
C'est probable.
Comme ça. Merci à toutes les deux d'avoir été avec
Merci.
Nous.
Merci
Dans quelques instants, Virginie sera avec nous. Alexandra. Il me semble que vous vous connaissez.
Oui, c'est ça.
Manon Gafourchet, Alexandra sera avec nous et nous honorera d'une chronique pour faire le tour de la Corrèze à vélo, en long, en large et en travers. Je ne vous en dis pas plus. Il est 13h passé de 30 minutes. Vous êtes ici sur Bram FM. Nous sommes en direct jusqu'à 14h. Mais pour l'heure, c'est l'heure du journal régional. À tout de suite.
L'actualité en Limousin et Périgord, le journal des radios associatives libres. Sébastien Péjou.
Bonjour à tous. La préfecture de la Corrèze rappelle plusieurs lots de la marque corrézienne Larédienne. Des conserves de pâté de campagne, rillettes, jambonneaux, confits de porc, pieds au vin, pâte andouillette et boudin en boîte sont susceptibles de contenir du Clostridium botulinum. C'est un agent responsable du botulisme qui est une maladie paralytique rare. Ces produits, issus d'une conserverie de Saint-Thierry-le-Déjala, doivent être détruits et surtout pas consommés. Les références des produits sont disponibles sur le site internet de la préfecture www.corrèze.gouv.fr. Nouveau vol de câbles téléphoniques en Creuse. Une trentaine d'habitants de Lourdoué-Saint-Pierre sont privés de téléphone depuis hier matin. Les techniciens d'Orange sont à pied d'œuvre pour rétablir la situation avant la fin de la semaine. 300 mètres de câbles ont été volés la nuit dernière. Ce serait le 8e vol de ce type dans ce secteur en l'espace de 2 ans. Le 28 février prochain, deux jeunes de 16 ans seront jugés par le juge des enfants de Limoges pour une affaire d'extorsion aggravée. Ils sont accusés d'avoir agressé 6 personnes. Depuis quelques semaines, il se faisait passer pour une femme désireuse de relations éphémères sur un chat pour adultes. Une fois leurs victimes sur le lieu du rendez-vous, il les dépouillait de leur argent liquide et de leur carte bancaire. Interpellés après une course-poursuite, ils ont été placés sous contrôle judiciaire à l'issue de leur garde à vue. Implantée à Limoges depuis 2016, Image Sensor Organic Research, ISORG, est spécialisée dans les photodétecteurs organiques et des capteurs d'image. ISORG vient d'être récompensé par une certification du Bureau fédéral d'investigation américain, le FBI. Nicolas Bernardin, directeur du développement commercial, nous explique le concept de leur capteur Bioldil Print 30.
Le principe de fonctionnement, c'est que ce capteur, il est à destination des marchés de la sécurité et de l'identification, c'est-à-dire les contrôles d'accès, contrôles aux frontières, contrôles police, vote électronique, citoyenneté. À destination des fabricants de scanners d'empreintes digitales, de scanners biométriques, tels que celui auquel vous êtes confronté dans les aéroports à l'international, au passage aux frontières. C'est la numérisation du motif de l'empreinte digitale. C'est un capteur d'image, donc il y a plein de technologies disponibles pour faire la capture des empreintes digitales, et nous, c'est une technologie optique.
Des propos recueillis par Aymeric Violet de RCF Limousin. L'entreprise créée en 2010 à Grenoble est la seule au monde à utiliser la technologie du photodiode organique via son unique site de production basé à Limoges. Et si l'Agora d'agriculture urbaine ouvrait le champ des possibles et des goûts ? C'est ce qu'imagine le chercheur et conférencier François Rouillet. L'habitant de Meusac dans le sud de la Haute-Vienne participera demain après-midi à une série de rendez-vous proposés par l'ADEPAL à Saint-Thierry-la-Perche, l'association de défense de l'environnement du Pays Arédien et du Limousin organise un forum autour de l'eau, des forêts et de l'alimentation, avec notamment une conférence sur l'autonomie alimentaire animée par François Rouillet. Il est au micro Kaolin FM de Jacques Agenot.
On pourrait imaginer que la commune de Saint-Thierrier, avec un jardin partagé comme celui qui est proposé, d'organiser une agora qui est un lieu de rassemblement convivial, mais en même temps d'éducation et de production par la population, par les habitants, les enfants des écoles, pour réapprendre tout ce qu'on a perdu en 50 ans. Et c'est ce qu'on va proposer samedi. Produisez sa nourriture localement. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui nous empêche de revenir à cette prospérité en décidant de se mettre en route sur la voie de l'autonomie alimentaire ?
Demain, le forum autour de l'eau, des forêts et de l'alimentation débutera à 15h par une démonstration de plantation et de taillage d'arbres. Puis viendront des conférences sur les bons gestes à adopter en agriculture. Vincent Magnier, forestier, membre du réseau Alternative Forestière et Forêt en Vie, interviendra sur eau et forêt à 17h à la Salle Attane. Puis viendra la conférence animée par François Rouillet sur l'autonomie alimentaire. Enfin, Sabine Becker, ingénieure urbaine, thérapeute et auteure conférencière, ouvrira le débat sur la permathérapie. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi.
Vous êtes ici sur Bram FM.
Et vous retrouverez le journal régional à 17h et à 18h30 sur les ondes de Bram FM. Vous êtes ici, oui, au 98.3 ou via notre site internet bramfm.com. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h. Dans une quinzaine de minutes, vous entendrez la chronique en Limousin suivie de la météo à 13h55. Pour l'heure, nous poursuivons notre émission. Bonjour Alexandra.
Bonjour Eve.
Tu es avec nous aujourd'hui pour parler de bonnes résolutions que nous ne tiendrons pas.
Absolument, c'est ça. Donc je vais commencer par vous souhaiter la bonne année, oui, parce qu'il est encore temps de se souhaiter les vœux. Nous avons tout le mois de janvier. Je suis ravie de vous retrouver déjà. Et puis en ce début d'année, on va parler, comme tu le disais, des bonnes résolutions. Bon, alors celle qu'on ne tiendra jamais, hein, manger healthy, se remettre au sport. Mais j'avais quand même envie de vous parler un peu de sport et de dépaysement. Et oui, du dépaysement, ici même, en Corrèze. Parce qu'il faut le noter, nous avons des spécialités, des choses uniques. Alors que vous aimiez la marche, le vélo ou le VTT, cette année, tentez l'expérience de l'itinérance. Précédemment, je vous avais parlé des sentiers de randonnée pédestre à faire sur une demi-journée ou une journée. Mais aujourd'hui, nous allons voir des activités sportives au long cours.
Qu'est-ce que tu entends par le long cours ?
Alors en fait, c'est l'itinérance, c'est du sport sur la durée, sur plusieurs jours même également. Donc je vais vous parler aussi bien de randonnée pédestre que de vélo cyclo sur les routes ou du VTT.
Et de camping.
Et effectivement, voilà, à chaque fois, pour tout ça, il y a toujours des alternatives d'hébergement pour faire la rando sur plusieurs jours. Je vais commencer par l'itinérève. Alors l'itinérève, c'est la randonnée itinérante qui part de Bort-les-Orgues pour la Corrèze jusqu'à Argentat et qui suit toutes les gorges de la Dordogne. Mais là, elle est maintenant sur Corrèze, Cantal et Puy-de-Dôme. C'est une nouveauté pour 2023. Après 9 années d'existence, l'association La Dordogne Village en Barrage a eu pour ambition d'aménager et de poursuivre l'itinérève en rive gauche de la Dordogne. Et en mars, le sentier de 200 km à son origine atteindra donc 450 km. C'est une rando différente, dépaysante, sportive. L'itinérève vous promet un voyage unique au cœur d'une nature sauvage et préservée. La rivière Dordogne, je le rappelle, est classée réserve mondiale de biosphère à l'UNESCO. Donc, outre des paysages magnifiques, voilà, sur votre route, vous allez avoir de charmants villages de la haute vallée de la Dordogne qui vous invitent à faire une halte. C'est l'occasion de belles rencontres avec les habitants et un réseau, comme tu le disais, structuré d'hébergeurs et de partenaires pour transport de bagages, producteurs également de produits locaux et hébergement. Et ça, donc, c'est avec la Dordogne Village en Barrage. Ils ont tout un réseau établi. C'est le sentier, on appelle ça le sentier du bout du monde, qui dévoile des paysages à couper le souffle et d'impressionnants barrages qui jalonnent la rivière. Cet itinéraire s'adresse quand même à de bons marcheurs, car il s'étend sur plus de 450 km et présente parfois d'importants dénivelés. Mais vraiment, ça vaut le détour. On se croirait vraiment ailleurs et on est complètement dépaysé. Après, toujours dans la rando pédestre, je vous propose le GRP du Midi Corrézien. Ça, c'est un sentier de randonnée de 118 km de chemin entièrement balisé entre 3 plus beaux villages de France. C'est ça qui est intéressant. On passe par Turenne, Collonges-la-Rouge et Cœurmonte. Entre autres, il y a d'autres beaux villages.
Plutôt sud de la Corrèze alors.
Exactement, on est plutôt dans le sud de la Corrèze. Alors entre ces villages, le randonneur découvre les paysages pittoresques du sud de la Corrèze, comme tu le disais, entre cosses et paysages constitués par le grès rouge notamment. Vous allez en prendre plein les yeux et profiter d'un patrimoine exceptionnel tout au long de votre séjour, où chaque étape vous réserve bon nombre de découvertes. Alors, il y a Turenne et son château. Il y a l'église fortifiée de Noyac, par exemple. Bon, bien sûr, Collonges-la-Rouge, qu'on ne cite plus, avec ses castels et ses maisons à tourelles, qui est également berceau des plus beaux villages de France, l'association nationale, quand même. Il y a Messac et sa halle au grain. Curemonte, avec ses trois châteaux, trois églises et sa table d'orientation. Sayac, également, avec son église à tympan polychrome et son moulin à huile. Nous avons eu un spécialiste de la rando qui est venu d'ailleurs sur le terrain pour voir un petit peu comment ça se passait, qui a été subjugué. C'était Grégory Roir, spécialiste rando dit trekking. Et même il dit, voilà, pour lui, il y a de belles découvertes. Et en plus, marcher seul facilite les rencontres. Il a fait de belles rencontres avec des producteurs locaux. Donc c'est un circuit de 118 km, je le rappelle, de long, pour un dénivelé positif comme négatif d'environ 3300 mètres. Il est réalisable à pied, à cheval et à VTT. Il avait été créé en 2019 par le comité départemental de randonnée pédestre et les comités de communes traversées. Le GRP du Midi-Corrézien est un itinéraire de randonnée plutôt facile qui peut se faire sur 6 jours. Un dénivelé moyen de 550 mètres par jour et distance maximale après des étapes de 26 km. C'est jamais plat vraiment longtemps, mais les pentes elles sont quand même assez douces dans l'ensemble, donc c'est accessible. On parlait de VTT aussi. Je vous propose la Corrézienne VTT, ça c'est également, c'est assez récent. On l'appelle également le Grand Tour VTT de la Corrèze, et pour cause. En fait, c'est 1000 km à VTT autour de la Corrèze pour découvrir le patrimoine local, aussi bien naturel que culturel. À l'initiative de la Fédération française de vélo de la Corrèze, ce parcours permanent, découpé en 51 secteurs de 10 à 25 km, passe par plus de 200 communes. Il y a une traversée du parc naturel régional de Millevaches en Limousin. Il passe également dans des plus beaux villages de France ou bien le long de la Vézère. En fait, c'est une véritable aventure en VTT ou VTT électrique, parce que oui, on peut le faire également en VTT électrique. D'ailleurs, le topo guide met une indication de temps pour chaque étape en VTT et vélo électrique. Ça permet d'être accessible à un plus grand nombre, en fait.
Tu le retrouves où, le topo guide ?
Alors, c'est en ligne sur le site de la Transcorrézienne VTT et sur le site correzerando.com. En fait, ce grand itinéraire VTT vous fera voyager dans de multiples paysages tout aussi variés que les notre Corrèze. Parfois facile sur des chemins larges et roulants, parfois un peu plus difficile, voire très difficile sur de petits sentiers escarpés. Il faut être un peu sportif pour faire ce circuit. Vous traverserez des forêts de feuillus en basse Corrèze par exemple, avant de vous retrouver au milieu des forêts de conifères sur la haute Corrèze. En fait, l'idée était de relier entre elles les différentes bases VTT de la Corrèze et les stations sport nature. En plus, c'est intéressant pour les conseils et dépannages. S'il y a besoin, il y a des professionnels tout le long du parcours.
On ne peut pas tomber en panne.
Voilà, c'est ça. Ou alors on est dépanné. Après, je voulais également vous parler de la véloroute. Alors là, ça, c'est du cyclotourisme et du vélo sur route également, des plus grandes distances. C'est la V87, la véloroute Corrèze, qui s'appelle maintenant la Vagabonde. Ça, c'est pour les amoureux de grandes expéditions à vélo. La véloroute Corrèze La Vagabonde vous invite à découvrir la Corrèze au travers d'un tracé unique d'une longueur de 146 km, du plateau Midvaches à la vallée de la Dordogne. Vous voyagez au cœur de décors surprenants et typiquement corréziens. La Vagabonde est aujourd'hui le seul itinéraire qui permet de traverser le centre de la France du nord au sud. À ce jour, l'itinéraire aménagé va de Montluçon dans l'Allier à Beaulieu sur Dordogne en Corrèze en passant par la Creuse. Et également, pour la partie corrézienne, elle relie donc Perlevade au nord à Lourdes au sud. Et après, ça continue après dans le Lot et jusqu'à Montauban. Alors, cette véloroute, elle est jalonnée en intégralité dans les deux sens, c'est-à-dire qu'elle est balisée, on peut le faire nord-sud-sud-nord. Elle répond à une charte nationale européenne. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un maillage au niveau national. Elle est connectée à d'autres véloroutes. C'est-à-dire qu'on peut en fait, découvrir d'autres véloroutes comme la Loire à vélo, par exemple, le canal des Deux-Mers. On peut découvrir un peu la France, un peu toute la France en suivant ces véloroutes. En Corrèze, on peut découper les 146 km en trois étapes de plus de 2500 mètres de dénivelé positif. Mais il y a également du dénivelé négatif, hein, donc ça c'est intéressant, c'est-à-dire que ça descend. D'ailleurs, là c'est pareil, on a eu deux spécialistes du vélo, Mila et Denis, qui sont venus, c'était le blog Monde à vélo, ils ont testé la véloroute l'été dernier, et sur leur site, il y a bonnes adresses, conseils sur le matériel, traces GPX. Ils ont parcouru la V87 en Corrèze sur sa partie nord, ils sont entrés au lac du Chamais à Perlevade, et après Bugeat, Gourdon-Murat, Lestar, Chaumeil. Et après, cette véloroute se poursuit par exemple par Saran, où on peut visiter le musée du président. Clairgoût, avec le château de Sédier, on passe pas loin. Il y a la Roche-Canillac, Argentat, Beaulieu. Et on sort du département, comme je disais, par Lourdes. En fait, l'idée, c'est de lier le vélo à la découverte du territoire, à son rythme, au gré de ses envies et de ses visites. C'est ça qui est intéressant. Et pour finir, je ne pouvais pas terminer cette chronique sans vous parler du geocaching Terra Aventura. Toujours, c'est toujours cette chasse au trésor 2.0 qui est surprenante, qui est quelques kilomètres, qui, en général, c'est des circuits de quelques kilomètres qui permettent de découvrir le territoire, le patrimoine local et les anecdotes tout en jouant. C'est quand même un peu de sport parce qu'il y a, voilà, il y a des différents circuits, c'est des circuits très rapides, mais il y en a qui font au-dessus de 5 km. Ça se joue en famille. Il y a plus d'une cinquantaine de balades originales en Corrèze, à pied ou à vélo, qui sont accessibles 24h sur 24, 7 jours sur 7, gratuitement. Il faut juste télécharger l'application gratuite Terra Aventura. Et en famille, vous pouvez relever des énigmes et des indices pour trouver en fait le trésor. Et pour retrouver toutes les informations pratiques et techniques, comme les topo guides et les bonnes adresses, je vous invite à consulter le site www.correzerando.com.
Merci beaucoup Alexandra.
Merci.
Et voilà de quoi tenir quand même nos bonnes résolutions.
Absolument.
Avec un programme comme ça.
C'est ça.
Merci beaucoup, à bientôt. On se retrouve le mois prochain pour une nouvelle chronique.
À bientôt.
Vous êtes ici sur Bram FM.
Et avant de retrouver la chronique en Limousin, Alexandra, tu nous as proposé un titre musical, Maneskin. On l'écoute donc et on se retrouve juste après.
You'll be the saddest part of me that will never be mine. It's obvious, tonight is gonna be the loneliest. You're still the oxygen I breathe. I see your face when I close my eyes. Torture. Tonight is gonna be the loneliest. There's a few lines that I have wrote in case of death. That's what I want. That's what I want. Sad when I'll be gone. There's just one thing I hope you know. I love you so. 'Cause I don't even care about the time I've got left. And the only thing I know now is that I wanna spend it with you, nobody else here. Tonight is gonna be the loneliest. Yo. Part of me, a part of me that will never be mine, so be it. Tonight is gonna be the loneliest. You'll be the saddest part of me, a part of me that will never be mine. It's obvious. Tonight is gonna be the loneliest. You're still the oxygen I breathe. I see your face when I close my eyes. It's dangerous. Tonight is gonna be the loneliest.
Maneskin avec le titre The Loneliest, le choix de Alexandra pour venir terminer sa chronique sur les bonnes résolutions que nous tiendrons grâce à elle cette année 2023.
Vous êtes ici avec Avermarie.
Et dans quelques instants, ce sera la chronique en Limousin, mais il me reste une petite minute pour vous parler de la tournée du spectacle Vers la Ville. Alors, on en a déjà parlé plusieurs fois à l'antenne, mais pour vous rappeler, donc, Vers la Ville, c'est la dernière création du collectif Lost in Tradition qui continue sa tournée dans le pays de Haute-Corrèze-Ventadour. Hein, le spectacle en écho à l'histoire de notre territoire, intimement lié aux migrations, celles d'hier, celles d'aujourd'hui, celles qui partent et celles qui arrivent. Ce spectacle mêle théâtre, documentaire et musique, et accompagné d'accessoires de cinéma et de vielle à roue, quatre individus s'en vont rencontrer des travailleurs et des travailleuses, qu'ils ou elles soient du passé, du présent ou même du futur. Ces travailleuses ont en commun d'avoir quitté leur pays sur les routes de l'exil. Jean Masson-Creusois, Madame Ribeiro et Monsieur Pacheco de Louisada au Portugal et plein d'autres livrent leurs témoignages. Le pays d'arrêt d'histoire Haute-Corrèze-Ventadour, Haute-Corrèze Communauté et la commune d'Ussel ont le plaisir donc d'accueillir Vers la Ville très prochainement, le 27 janvier à 20h30 au Centre culturel Jean Ferrat. Il y a aussi, et ils seront à Merline le 24 janvier et à Égletons le 25 janvier. Les spectacles sont à 20h30. La tournée va continuer un peu partout en Corrèze. On vous rappellera les dates de cet événement. Il y a au total 11 représentations publiques et 11 représentations aussi avec les scolaires, collèges et lycées et bord de plateau avec les artistes. Toutes les bonnes informations sont à retrouver au 05 87 31 00 57. 05 87 31 00 57 pour les plus de 18 ans. Le prix est libre à partir de 5€ et pour les moins de 18 ans, c'est gratuit. Voilà les bonnes infos pour ce spectacle, la tournée Vers la Ville, la dernière création du collectif Lost in Tradition. Il est 13h50 et c'est l'heure de la chronique en Limousin. Et puis juste après, je vous parlerai du temps de ce week-end. A tout de suite.
La chronique quotidienne du groupement des radios associatives libres en Nouvelle-Aquitaine, le rendez-vous de ses territoires et ses acteurs. Le Graal, producteur de proximité en Nouvelle-Aquitaine.
C'est l'un des sujets de ce début d'année 2023. Comment parvenir à baisser les factures d'électricité? Alors il y a des gestes simples comme baisser la température des chauffages à 19 degrés, éteindre les lumières ou ne pas laisser les appareils en veille. Mais au final, cela n'a pas forcément d'impact réel tant les prix de l'énergie flambent en ce moment. En Corrèze, le département a voté en décembre dernier un vaste plan, un plan baptisé Corrèze bouclier énergétique, et c'est de ce plan dont nous allons vous parler aujourd'hui dans la chronique. Un plan organisé en 3 temps, comme le souligne Pascal Coste, c'est le président du conseil départemental de la Corrèze.
Il y a la rénovation énergétique des bâtiments, mais il y a aussi à court terme un programme d'aide pour la régulation thermique aux particuliers. Dans un temps un peu plus efficacité, un peu plus moyen terme, la capacité à pouvoir avoir des aides pour mettre des panneaux solaires sur le toit, de pouvoir mettre de l'eau chaude solaire, de pouvoir faire de la géothermie pour changer sa chaudière, enfin un certain nombre d'effets à un peu plus long terme parce qu'il faut le temps de les installer.
Et enfin, le troisième volet donc de ce plan Corrèze bouclier énergétique pourrait voir naître un service public de production et de distribution d'énergie électrique.
À plus long terme, une réflexion sur la capacité à pouvoir produire localement de l'énergie que l'on consomme localement et qui soit proche du prix de production, c'est-à-dire bien moins cher que ce que l'on connaît aujourd'hui. Et donc de faire un bouclier tarifaire indirect sans avoir de subvention publique.
Et si cette proposition a été adoptée à une grande majorité par 29 voix sur les 38 conseillers départementaux de la Corrèze, l'opposition, elle, a voté contre par 8 voix et une abstention. Bernard Combes est le chef de l'opposition Corrèze à gauche. Pour lui, ce plan Corrèze bouclier énergétique pose un problème de compétences.
Proposer un grand plan qui fait fi d'une co-construction et d'un partage des compétences avec des collectivités qui, elles, ont réellement cette compétence à mettre en œuvre. Je pense notamment aux régions ou aux agglos ou aux communautés de communes. Et donc, M. Coste essaie de récupérer finalement un faisceau de compétences qu'il essaie de ramener vers lui, dans le département, pour exercer une compétence qu'il n'a pas et surtout une co-construction qui n'est pas utile en termes de transition énergétique.
À cette heure, donc, des études juridiques sont en cours afin de déterminer les zones de compétence du département. Néanmoins, le conseil départemental de la Corrèze prospecte déjà pour tenter de trouver des producteurs d'énergie.
On est en train de travailler sur ce gros projet en faisant le recensement, notamment avec la Chambre d'agriculture, de qui est en capacité de produire et quels sont ceux qui sont intéressés. On travaille aussi avec ceux qui savent installer des panneaux à quelles sont les solutions techniques que vous mettez sur la table, sur l'ensemble des énergies. Ensuite, on travaille avec, dans un premier temps, les entreprises à voir qui est prêt à acheter à quel prix de l'énergie pour pouvoir contractualiser avec les producteurs. Ensuite, avec les collectivités, la même chose. Et dans un troisième temps, on fera avec les particuliers pour pouvoir raccorder des installations publiques ou pas directement à des particuliers pour faire baisser leurs factures énergétiques.
Mais pour l'opposition, ce grand projet de créer un service public de production d'électricité n'est pas viable.
Je n'y crois pas parce qu'il n'y arrivera pas quand il parle d'une Corrèze autosuffisante à horizon de 10 ans. En matière d'énergie, c'est pas lui qui a les barrages. Il n'a pas la gestion des barrages. Or, l'hydroélectricité, c'est pratiquement la ressource principale de capacitaire, en tout cas de production d'énergie pour la Corrèze. Et pour ce qui est de tous les autres, il est tributaire des propriétaires terriens qui pourraient éventuellement mettre des panneaux photovoltaïques, tributaire de la Chambre d'agriculture, bien sûr, tributaire des schémas régionaux que la région a mis en œuvre en matière de schéma éolien ou de schéma, on va dire, énergétique. Et donc, étant tributaire de tout, il est co-acteur, mais il ne peut pas être l'acteur principal.
Pour autant, les aides à la rénovation énergétique des bâtiments ou à la mise en place de chauffe-eau thermodynamique sont en place. Elles sont à retrouver sur le site corrèze.fr, puis en cliquant sur l'onglet Corrèze bouclier énergétique. Sur ce plan-là, le département de la Corrèze a mobilisé 14 millions d'euros. 3 millions sont réservés aux particuliers, 5 millions pour les communes et enfin 6 millions pour les travaux dans les logements sociaux. Olivier Serac, RGB pour le Graal.
La chronique quotidienne du groupement des radios associatives libres en Nouvelle-Aquitaine est à retrouver sur legraal.info. Le Graal, producteur de proximité en Nouvelle-Aquitaine.
Et vous retrouverez la chronique en Limousin sur les ondes de Bram FM à 18h, mais pour l'heure...
Tombe la neige.
Tombe la neige. Que dit la boule de cristal météorologique pour ce week-end? Demain, samedi 14 janvier, le ciel sera nuageux et voilé, mais la pluie devrait se retenir de tomber toute la journée. Quelques gouttelettes, elles, s'échapperont, mais pas de quoi vous cloîtrer chez vous. Les températures matinales seront comprises entre 4 et 6 degrés du nord au sud. Pour l'après-midi, comptez 7 à Ussel, 9 à Trégnac et 11 degrés qui sera la maximale à Uzerche, Tulle et Argentat. Dimanche, la boule de cristal annonce de la neige en Corrèze, messieurs, dames, oui, de la neige pour le nord et le nord-est. Trégnac sera épargné cette fois, je dis bien cette fois, et ce sera donc de la pluie pour Trégnac comme pour le reste du commun des mortels corréziens. Pluies qui s'estomperont dans l'après-midi pour laisser place à quelques éclaircies dimanche, après-midi donc. Néanmoins, la neige reviendra dans la nuit de dimanche à lundi sur la partie nord et est du département, et cette fois-ci ça ira jusqu'à Trégnac et ce sera donc de la neige. Et vous l'aurez deviné, les températures seront très fraîches. Dimanche 15 janvier au matin, il fera 2 degrés à Ussel, 3 à Égletons et Trégnac, 6 à Tulle et pour le sud de Tulle aussi. L'après-midi, la Corrèze se coupe en deux, il fera jusqu'à 5 degrés pour toute la partie au nord de Tulle et 8 degrés pour toute la Corrèze au sud de Tulle et à Tulle aussi bien sûr. Le vent va souffler sur tout l'est de la Corrèze dimanche matin, mais va se calmer dans la journée. Lundi, en revanche, le vent, lui, va souffler sur l'ensemble du territoire, n'épargnant personne. Attention, des rafales atteindront jusqu'à 55 km/h. Les températures de lundi seront, elles, comprises entre 1 et 5 degrés pour la journée. Elles seront donc bien hivernales et bien de saison. Mais Isabelle sera de retour pour vous annoncer le temps de la semaine. C'est la fin de ce direct et c'est la fin de la semaine sur Vous êtes ici, sur Bram FM. Alors évidemment, la programmation va continuer encore et encore. Un grand merci à mes invités aujourd'hui, Pauline Ossard et Virginie Goudonnet du collectif Girls in Rose. Merci à Hugo et Alexandra. Et merci à vous, auditeurs et auditrices, d'avoir été à l'écoute et d'être fidèles. Et même aussi, merci aux infidèles. Pour retrouver le podcast de cette émission, comme toutes les émissions de Bram FM, rendez-vous à partir de 14h30 sur le site de Bram FM dans la rubrique Vous êtes ici. Vous y retrouverez notamment les liens et aussi les titres des musiques qui passent dans l'émission. La suite du programme sur Bram FM à 16h, les ateliers de l'OCCE, Pili avec Cola. Ce soir à 21h, c'est la DJ Academy. Et moi, je vous retrouve lundi à 13h avec Fabrice Combe, artiste, auteur et compositeur, mais aussi avec toute une belle bande de chroniqueuses qui seront avec moi toute la semaine. Il y aura un programme chargé. Mardi, on parlera du bleu en hiver. Enfin, si je commence à vous faire le topo de la semaine, on s'en sort pas. Je vous souhaite donc une excellente après-midi à l'écoute de Bram FM. Et on se quitte donc avec un titre musical. Et ce sera donc John Lennon, Working Class Heroes. Tout de suite, vous êtes bien ici sur Bram FM.